France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, mais quelle mouche l'a donc piqué ? Car on n'a pas fini de se poser la question. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il dissous l'Assemblée il y a un an, dans la foulée des élections européennes qui pourtant n'ont jamais influé sur le destin politique du pays ? C'était le 9 juin 2024 au soir, alors que son camp venait de subir une gifle électorale mémorable. Malgré les apparences, cette décision est tout sauf impulsive. Cela faisait des mois qu'un petit groupe de conseillers aux dents longues travaillait sur le scénario d'une dissolution dans ce palais de l'Élysée où se joue la tragicomédie du pouvoir français depuis 67 ans et où l'esprit de cour, les volte-face et les trahisons semblent incrustés dans les murs. C'est ici que cette histoire débute, c'est ici qu'elle se terminera, pas forcément bien. Notre invitée aujourd'hui, Pauline de Saint-Rémy, directrice adjointe de la rédaction du journal Politico et co-autrice du livre intitulé « La surprise du chef », paru en octobre 2024. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Guillaume Malandras, coordination Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca Donnant, réalisation Stéphane Côme.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Paris, 9 juin 2024, 19h. Dans le jardin du palais de l'Élysée, plusieurs membres du gouvernement et quelques cadres de la majorité font les 100 pas. Ils se nomment Gabriel Attal, Yaël Braun-Pivet, Bruno Le Maire, Rachida Dati ou encore Gérald Darmanin. Silencieux et concentrés, ils attendent d'être reçus par le locataire des lieux, celui à qui toutes et tous doivent leur poste, Emmanuel Macron. Malgré le soleil de printemps et les senteurs délicates de la roseraie, les mines sont fermées, les regards fébriles. En ce jour d'élection européenne, les premières estimations annoncent en effet une sévère défaite pour le parti présidentiel. La liste emmenée par leur collègue Valérie Ayé se trouverait environ 15 points derrière celle du Rassemblement National et ferait jeu égal avec les sociodémocrates de Raphaël Glucksmann.
France Inter, soirée spéciale élection européenne.
Bonsoir à tous. Quelle Europe pour les 5 prochaines années ? 360 millions de citoyens européens étaient appelés à voter depuis jeudi chez les 27 pour élire le futur Parlement européen. C'est tout simplement le scrutin le plus important cette année en nombre de votants dans le monde après l'Inde. 720 eurodéputés sont élus à la proportionnelle, dont 81 en France. Le slogan de la campagne, c'était « Utilisez votre vote, use your vote ».
Mais en ce dimanche très spécial, les pontes macronistes n'ont pas été convoquées pour analyser la débâcle à venir, non. Depuis quelques heures, une rumeur impétroyable circule sous les dorures des palais. Le grand chef s'apprêterait à dissoudre l'Assemblée nationale. Comment ça à dissoudre ? Comme Jacques Chirac, 27 ans plus tôt ? Dans le jardin de l'Élysée, ils sont plusieurs à convoquer le souvenir de ce discours du président de l'époque, en 97, ou comment couper la branche sur laquelle on est assis.
Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Résultat. La majorité change donc de bord ce soir. La majorité est à nouveau à gauche avec 334 sièges.
Voilà, sans transition, je reçois messieurs Jacques Chirac et Lionel Jospin, son nouveau Premier ministre.
Bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur Chirac, vous avez l'air un peu amer.
Non, pourquoi ? Je voulais dissoudre l'Assemblée, j'ai dissous la droite. Oh, putain, quel camp de quel camp !
On connaît la suite, grotesque pour Jacques Chirac, alors qu'il a passé sa vie à conquérir l'Élysée. 2 ans seulement après son triomphe, le voilà en cohabitation, obligé de céder l'essentiel du pouvoir aux socialistes. Alors à l'Élysée, ce 9 juin 2024, Rachida Dati se tourne vers son collègue ministre de l'Intérieur et lui dit « T'en penses quoi, toi, Gérald ?» Gérald Darmanin est incrédule. Il fait partie des rares qui ont milité pour cette solution auprès des chefs de l'État, sans penser une seconde qu'il en serait capable. À l'écart, tête baissée, Gabriel Attal tire en silence sur sa cigarette électronique. Un peu plus tôt dans la journée, le plus jeune Premier ministre de la Ve République a passé 20 minutes au téléphone avec Emmanuel Macron pour tenter de le dissuader. Mais rien n'a fonctionné. Après 5 mois à Matignon, il sait que son temps à la tête du gouvernement est compté. Un peu après 19h, les huissiers du palais ouvrent la double porte du salon des ambassadeurs, une salle recouverte de dorures et de grands miroirs où se tient le traditionnel conseil des ministres. Quand il débarque, flanqué de son bras droit, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, Emmanuel Macron arbore le sourire de l'enfant qui va faire une grosse bêtise. Il commence par demander au ministre de l'Intérieur, Darmanin, de faire le point sur les élections. Informé des premières estimations, le président reste stoïque. Mais il dit que c'est très grave, et tout cela ne peut pas rester sans réponse politique forte. Puis, il prend une inspiration. Je n'ai pas 36 solutions. Je vous annonce que j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée, dès ce soir. Autour de la table, silence, les participants accusent le coup. Depuis la réélection et les législatives qui ont suivi en 2022, le parti présidentiel n'a qu'une majorité relative à l'Assemblée. Résultat, les débats traînent en longueur et les réformes peinent à voir le jour. D'ailleurs, il y a une échéance explosive que le président et tous les cadres du parti redoutent, le vote du budget en septembre. Si on conserve cette courte majorité, l'affaire semble bien mal engagée. Bien sûr, le passage en force est possible grâce à l'article 49.3 de la Constitution. Avant, sous la Ve République, avec une majorité à l'Assemblée acquise à l'exécutif, ce n'était pas très risqué. Les motions de censure étaient déposées par l'opposition pour la forme, mais jamais votées. Là, avec une majorité très relative depuis 2022, c'est une autre histoire, évidemment. Pour un vote aussi délicat et disputé que celui du budget, le risque est beaucoup trop important avec cette assemblée-là. Et le 49-3 n'est pas une solution pérenne.
Le 49-3 permet d'éviter le blocage au pays. Son inconvénient, c'est qu'il peut chanter le débat.
C'est donc la démocratie parlementaire qui aura le dernier mot.
Madame la Première ministre, je vous remercie.
Autre argument qui, lui non plus, ne milite pas pour une dissolution, le risque électoral, tout simplement. Vu les résultats à venir des européennes, pourquoi les Français changeraient-ils leur fusil d'épaule? Il est même probable que le président se retrouve minoritaire, avec à la clé une cohabitation. Dans ce cas, pourquoi ne pas remanier plutôt que dissoudre? Emmanuel Macron n'y croit pas. Il a déjà essayé en janvier dernier en humant Gabriel Attal, mais rien n'a changé. Autour de la table, certains proposent alors un compromis. On pourrait dissoudre à la rentrée le temps de relancer une dynamique. Non, inutile. Pour le chef de l'État, il faut agir maintenant et prendre tous les adversaires de cour. D'ailleurs, il a déjà choisi les dates du scrutin législatif à venir, les 30 juin et 7 juillet, soit le délai le plus rapide autorisé par la Constitution. 3 petites semaines. Bien. Mais alors, quelle stratégie pour gagner? Même s'il affiche sa confiance habituelle, le président n'est pas dupe. À tout prendre, dit-il, mieux vaut une cohabitation avec Bardella maintenant que laisser les clés du palais au RN en 2007. Oui, oui, c'est bien ça. Avec la dissolution, Macron est parfaitement conscient que l'extrême droite peut s'emparer de Matignon. En lui offrant le pouvoir, en espérant qu'il n'en fera rien ou échouera, l'hypothèse extrême droite pourrait être levée. L'hypothèque. Oui, et pourrait, car rien n'est sûr. On peut aussi imaginer que cette arrivée du Rassemblement National provoquera une crise institutionnelle et cassera la dynamique de Marine Le Pen pour accéder à l'Élysée 3 ans plus tard. Pour autant, et même pour les plus audacieux, le pari semble risqué. Et pour d'autres, c'est carrément un suicide. En politique, on est rarement récompensé quand on mise sur la défaite de son propre camp. Pourtant, le président jubile. Bon courage à la gauche pour signer en 3 semaines, claironne-t-il. Autour de lui, les regards s'éteignent. Personne n'ose rebondir. Le silence n'est rompu que par l'enthousiasme du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. « Monsieur le Président, dit-il, votre décision est désormais la nôtre. » Debout derrière Emmanuel Macron, la photographe officielle, Soizic de la Moissonnière, immortalise la scène. Regard noir fixé dans les yeux d'Emmanuel Macron, car il est assis en face. Gabriel Attal encaisse. Et dit, je n'ai rien ajouté, je vous suis. Mais sans conviction. Il ne le dit pas, il le pense. À ses côtés, les mains jointes sur le nez en position communiant, Gérald Darmanin semble ailleurs. Tout comme Yael Braun-Pivet, les yeux écarquillés, la présidente de l'Assemblée n'en revient pas. Instinctivement, elle rappelle au président une obligation institutionnelle. L'article 12 de la Constitution prévoit une consultation avec les présidents des deux chambres. Impossible, Emmanuel Macron rétorque sur le ton de l'évidence, c'est ce que nous sommes en train de faire, non ? Au grand dam de Yann Brown-Pivet.
Cet entretien, je l'ai quelques minutes après avec le président de la République et nous avons un échange tous les deux sur la décision, sur les raisons pour lesquelles il pense qu'il faut dissoudre et moi j'essaye de lui expliquer les raisons pour lesquelles je pense qu'il ne faut pas dissoudre. Et je n'arrive pas à le convaincre.
Au bout d'une demi-heure, Emmanuel Macron ajourne la réunion. À nouveau seul au palais entre Alexis Kohler et sa femme Brigitte, il prend son téléphone pour prévenir celles et ceux qui n'ont pas pu y assister. Autrement dit, son ancien Premier ministre, Édouard Philippe, ni surpris ni emballé, mais aussi sa tête d'affiche pour les européennes, Valérie Hayet. Présente à la mutualité avec son entourage pour la soirée électorale, la candidate affiche une triste mine. Ça sent la défaite, la raclée même. Les toutes dernières estimations s'annoncent catastrophiques. Et l'appel avec le président n'arrange rien. Quand elle raccroche, elle est livide. La rumeur est vraie, lance-t-elle à son directeur de campagne. Il va dissoudre. Autant dire que ces élections européennes qui ne passionnaient déjà pas les foules passent immédiatement à l'arrière-plan, histoire d'oublier ce qu'une majorité de Français vient de dire à la Macronie dehors. Du côté des rédactions parisiennes, le bruit commence tout juste à se répandre. Mais pour le moment, ils sont peu à y croire. D'ailleurs, quand vient l'heure des résultats, la soirée débute comme un dimanche électoral classique. Sans surprise, le RN de Jordan Bardella est au plus haut, loin devant tous les autres.
Il est 20h, vous la découvrez, notre première estimation. Le Rassemblement National et Sali sont à 32,4%. Viennent ensuite le parti Renaissance de la majorité présidentielle, 15,2%. Place publique, le Parti Socialiste, 14,3%.
Et vous voyez la liesse du côté du quartier général de Jordan Bardella. Nous allons avoir les estimations des autres partis. Les autres partis qui arrivent ensuite, vous le voyez, en quatrième position, la France Insoumise avec 8,3%, suivi des Républicains, 7%.
Quelques minutes après l'annonce des résultats, tout change. Une dépêche AFP annonce qu'Emmanuel Macron va s'exprimer à 21h. Au sein des rédactions, ça s'agite. Les téléphones vibrent et la rumeur de la dissolution prend corps. À la baguette, on trouve un homme de l'ombre, le conseiller mémoire du président et ancien journaliste, le flegmatique Bruno Roger Petit. Sourire fatigué et regard noir, BRP, comme on l'appelle, arpente les palais de la République depuis les débuts de l'aventure Macron en 2017. Régulièrement annoncé sur le départ, celui que ses ennemis surnomment Tullius Détritus, le sinistre trouble-fête de la BD Astérix et Obélix, est encore là, et toujours là. Aujourd'hui, il est même l'un des piliers de toute la séquence, et il ne s'en cache pas. Depuis son bureau de l'Elysée, il alimente les boucles WhatsApp des journalistes avec des petites phrases bien senties entre tournures grandiloquentes et effets d'annonce. D'après lui, le président s'apprêterait à faire, écrit-il, une annonce d'importance et le pays serait sur le point de vivre ce qu'il appelle déjà un moment gaullien. Rien que ça. À ses côtés, on trouve un autre personnage haut en couleur, Pierre Charon. Gouailleur, passé par Chirac et Sarkozy, amateur de coups douteux et surnommé prix Nobel de l'embrouille, il raconte à qui veut l'entendre qu'un coup important se prépare. Dans une autre aile du palais, un autre téléphone est en surchauffe, celui d'Emmanuel Macron. Après Édouard Philippe et Valérie Hayet, il appelle le dernier responsable sur sa liste, celui que la Constitution l'oblige à consulter, le président du Sénat Gérard Larcher. Mais l'obligation tourne vite à la formalité administrative. En 1 minute 30, l'affaire est pliée. Le jovial Larcher sidéré, mais il garde son humour.
J'attends les résultats des élections européennes et je vois sur mon portable s'afficher le nom du Emmanuel Macron. Je décroche, il est 20h10, 20h15. Celui-ci m'informe dans un temps très bref de sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Je lui rappelle que est-ce une consultation ? Et je n'ai pas de réponse. En fait, j'ai été informé. Je n'ai pas été consulté. J'ai pu noter que la présidente de l'Assemblée nationale et le Premier ministre n'avaient guère été mieux traités que moi.
Quelques minutes plus tard, vient le moment fatidique. Le président file dans le salon doré, où deux caméras, un prompteur et quelques éclairages ont été installés à la hâte. Il est 20h32. Regard solennel et posture droite, il se lance dans un discours concis et sobre. Posté en régie, un conseiller suit le texte sur sa feuille. Il s'appelle Jonathan Guémas. Officiellement chargé de la communication et de la stratégie, ce normalien est l'un des principaux artisans de la dissolution. Oui, au même titre que son ami Clément Leonarduzzi, et tout comme les deux anciens, Bruno Roger Petit et Pierre Charron. Il faut dire que malgré les apparences, la décision n'a rien d'improvisé. En réalité, cela fait des mois que ce petit groupe soudé et influent travaille en secret sur le scénario. On les appelle les mousquetaires. Venus de la publicité ou de la communication d'entreprise, ils n'ont qu'une obsession, agir plutôt que subir, et faire de chaque séquence importante, comme cette dissolution, un moment historique. Car la mission que leur a confiée le président n'est pas cantonnée au présent de l'action publique. Soucieux de la place qu'il prendra dans l'histoire, Emmanuel Macron veut construire ce qu'il appelle le récit du décennat. Depuis plusieurs mois, Jonathan Guémas puise donc dans la culture, petite et grande, pour construire le mythe Macron. Ainsi, il cite des philosophes comme Habermas ou Diderot pour justifier ses décisions impulsives ou disserter sur son rapport affectif aux Français. Et quand il évoque les épreuves, comme la dissolution, Guémas se lance dans une allégorie végétale sortie tout droit d'un documentaire champêtre. Sa fleur préférée est la saxifrage, dit-il. Elle se ferait un chemin dans la fissure du rocher, comme l'explique le journaliste Michel Huette.
Voilà l'une des plus belles plantes des Pyrénées. C'est la saxifrage des Pyrénées. C'est une plante endémique. Elle est vraiment spectaculaire. Elle vit sur le calcaire, comme ça, accrochée aux parois.
En réalité, l'idée que défend le conseiller à travers son délire floral est simple. Cette dissolution doit être vue comme un désordre organisé, un instant de chaos contrôlé et salutaire qui débouchera sur une période de clarification et de stabilité. L'homme de l'ombre a même trouvé une formule limpide pour désigner la séquence. Elle représente, je le cite encore, l'an 1 de l'ère d'une culture de coalition à la française. Comprenez qui pourra. Au-delà de cet enfumage de publicitaire, de quoi cette dissolution est-elle le nom, en vérité ? Emmanuel Macron a-t-il, comme il le pense, un coup d'avance sur tout le monde, ou bien s'est-il perdu dans une stratégie cynique vendue par un cabinet noir ? Une chose est certaine, autour de lui, ils sont de moins en moins nombreux à le suivre. Même le fidèle d'entre les fidèles, celui que la presse appelle parfois la doublure ou l'alter ego, l'indéboulonnable Alexis Colère, semble agacé. Tapis dans un coin de la pièce, il suit le discours du patron, serrant les dents. De l'époque originelle de 2017, il est l'un des derniers survivants, et cette dissolution surprise, il ne la sent pas. Pire encore, pour la première fois depuis 10 ans, il doute. Et si cette énième audace du président était celle de trop ? Elle ne peut déboucher que sur une crise institutionnelle, pense-t-il. Cette fois, il a perdu pied, ose-t-il penser ? Malheureusement pour Alexis Colère, la machine est en marche. Après l'enregistrement, la vidéo de l'annonce de la dissolution est envoyée aux chaînes de télé. À 21h, l'image du palais de l'Élysée apparaît sur les télévisions du pays. Le moment gaullien promis est arrivé. Ou plutôt, la grenade découpillée s'apprête à toucher le sol.
Françaises, Français, vous avez eu ce jour à voter pour les élections européennes, en métropole, dans nos outre-mer, comme à l'étranger. Le principal enseignement est clair. Ce n'est pas un bon résultat pour les partis qui défendent l'Europe, dont celui de la majorité présidentielle. La montée des nationalistes, des démagogues, est un danger pour notre nation. Oui, l'extrême droite est à la fois l'appauvrissement des Français et le déclassement de notre pays. Je ne saurais donc, à l'issue de cette journée, faire comme si de rien n'était. À cette situation s'ajoute une fièvre qui s'est emparée ces dernières années du débat public et parlementaire dans notre pays. un désordre qui, je le sais, vous inquiète, parfois vous choque, et auquel je n'entends rien céder. Or, aujourd'hui, les défis qui se présentent à nous, qu'il s'agisse des dangers extérieurs, du dérèglement climatique et de ses conséquences, ces défis exigent la clarté dans nos débats. C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la dissolution de juin 2024.
Affaires Sensibles. Fabrice Drouel.
Paris, 9 juin 2024, 21h. À la Mutualité, où sont rassemblés les militants macronistes pour la soirée électorale, le discours, diffusé sur un grand écran, provoque un coup de tonnerre. Le président, leur président, vient d'annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Dans le public, ils sont hébétés. Mais enfin, qu'est-ce qui lui est passé par la tête?
C'est pas une bonne décision, il fait la même connerie que Chirac, je pense. Je pense que le RN va continuer dans sa dynamique.
Je suis surprise, déçue et atterrée, parce que on se tire une balle dans le pied, c'est un suicide.
J'ai pas les mots, c'est complètement fou d'avoir fait ça. Là, ce sera même pas de l'instabilité, là, il n'y aura même pas de majorité. Il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de majorité.
Je ne sais pas quoi trop y penser, j'ai pas de mots, en fait. Là, vraiment, je suis... coup de massue, encore.
Si on veut mettre Bardella Premier ministre, et peut-être que c'est une stratégie, mais je la comprends pas bien.
Franchement, il en a. Je peux pas dire quoi, mais il en a.
Parmi les proches du président, c'est la même incompréhension. Le patron du groupe de luxe LVMH, Bernard Arnault, qui a dîné la veille à l'Élysée sans rien savoir du coup qui se préparait, est tellement en colère qu'il appelle directement le chef de l'État. Et il n'est pas le seul. L'homme d'affaires, essayiste Alain Minc, pourtant jamais avare de compliments, fustige le comportement du Rastignac d'Amiens. Le soir même, il fait le tour des plateaux télé pour évoquer la griserie autosuffisante du monarque, je cite, et accable ses conseillers, les fameux mousquetaires, qui ne seraient que des médiocres, car il faut qu'il n'y ait qu'un seul soleil dans la pièce, dit-il. Même l'ancien président Nicolas Sarkozy ne comprend plus son successeur. et avec lui. Toute la classe politique s'interroge, de Marine Le Pen jusqu'à Jean-Luc Mélenchon, en passant donc par Nicolas Sarkozy.
La dissolution, c'est pour moi une arme ultime dont 9 fois sur 10 ont fait un mauvais usage.
Nous avions notre verre de champagne à la main pour fêter les résultats et on a fait « Ah, gloups, on a posé le verre de champagne ».
Ma première réaction, mais tout de suite, péché d'orgueil.
Une dissolution comme ça, à chaud, quand on a vu le résultat des européennes, c'est pas possible.
Je suis un peu ébahi, je crois, comme la plupart des Français.
Bon, c'est trop beau. C'est trop beau, une occasion pareille.
Insaisissable, imprévisible, dangereux, les adjectifs pleuvent pour qualifier l'attitude du président de la République. Du côté de son deuxième cercle, parmi les ministres, ils sont nombreux à se questionner. D'ailleurs, à 22h, une heure après l'allocution, tous se retrouvent à l'Élysée pour un conseil des ministres extraordinaire. Réunis dans l'antichambre avant l'arrivée du chef, les ponts de la Macronie sont tendus. Certains n'attendent même pas la réunion pour régler leurs comptes. À l'image de Franck Riester. « T'es complètement en barge », lance-t-il à l'un des défenseurs de la dissolution, Gérald Darmanin. « Je suis mort, moi, en Seine-et-Marne. »« Mais je n'ai fait que donner mon avis », répond le ministre, avant d'ajouter « Ma circo n'est pas plus gagnée que la tienne. » Quand il débarque dans cette ambiance électrique, voire délétère, Emmanuel Macron garde sa morgue. « La majorité retrouvera une dynamique », répète-t-il en boucle. Dans un bureau, non loin de là, son conseiller de l'ombre, Jonathan Guémas, tient le même discours. Réuni en visio avec les directeurs de communication des ministères, il tente de convaincre un auditoire sceptique, pour ne pas dire hostile. C'est dans l'ADN du macronisme de renverser la table, expose-t-il fièrement. Derrière leurs ordinateurs, les participants sont incrédules. Renverser la table, d'accord, mais pourquoi faire? Comment défendre une élection qui risque d'envoyer le RN au pouvoir? Après 10 minutes d'échange, s'impose une évidence. La déconnexion entre la présidence et les ministères est totale. Quelques heures après la déflagration, la grande famille du centre se trouve donc en lambeaux. Entre les ministres pas convaincus, les cadres réticents et les amis fâchés, la majorité, réunie depuis 2022 sous la bannière Ensemble, est moins ensemble que jamais. Comme l'expliquent deux anciens premiers ministres d'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne et Édouard Philippe.
Alors, je ne peux pas vous dire que je comprends la décision, spontanément.
J'imaginais pas une seconde qu'il pourrait la décider ce jour-là et comme ça.
Du côté du Rassemblement National, l'heure est à l'euphorie, bien sûr. Immense favori du scrutin à venir, le parti d'extrême droite se met tout de suite en ordre de marche. En 2 jours, 577 candidats sont investis et le matériel de campagne est prêt. Plus que jamais, le pouvoir est à portée de main. Face au RN, les différents partis de gauche décident d'oublier un temps leurs différences et leurs différends avec la création d'un mouvement commun au nom symboliquement chargé, le Nouveau Front Populaire, ou NFP. Pour le chef de l'État, qui pensait la gauche incapable de se réunir, c'est un premier pari perdu. En 48 heures à peine, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, le Parti socialiste d'Olivier Faure et les écologistes emmenés par Marine Tondelier trouvent un terrain d'entente.
Moi, je savais, avec mes camarades, on ne pouvait pas jouer au dé de savoir ce qu'allait sortir du vote. Donc, il fallait être unis. Et il fallait payer le prix pour ça.
La première chose que je fais à ce moment-là, c'est d'appeler, effectivement, au rassemblement. Parce que la gauche divisée, c'est la gauche qui perd.
Je vous confirme que nous l'avons fait, que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Malgré cette unité, les débats internes sont houleux au sein du NPF. Premier parti de gauche à la dernière présidentielle, et de loin, la France insoumise se voit comme la force motrice du mouvement. Mais les socialistes, à juste titre, tiennent à un partage qui prendrait en compte leur bon score aux européennes. Derrière ces petits calculs d'une évidence, entre les partis qui composent le NFP, le gouffre idéologique est béant et la confiance n'est pas encore à l'ordre du jour. Idem à l'intérieur des partis. La redistribution des investitures offre à Jean-Luc Mélenchon, par exemple, l'occasion de se débarrasser de 3 cadres qui n'ont plus ses faveurs. Daniel Simonet, mais surtout le couple Raquel Garrido et Alexis Corbière. Quoi qu'il en soit, union de façade ou pas, la naissance du nouveau Front Populaire ne modifie pas le rapport de force. Jour après jour, le RN est donné comme archi-favori du scrutin. pour la première fois depuis des décennies, les Français se préparent collectivement à être dirigés par l'extrême droite. D'ailleurs, la victoire semble tellement acquise qu'un des ténors de la droite républicaine, Éric Ciotti, franchit le Rubicon. Deux jours après l'annonce de la dissolution, le 11 juin, l'éternel aspirant à la mairie de Nice annonce qu'il a passé un accord avec Marine Le Pen. Face aux caméras, il explique son choix.
J'ai pris mes responsabilités dans un moment très lourd, très grave pour le pays, où la France est menacée par l'alliance honteuse des Insoumis.
Honte à vous. Oui. Vous ne méritez pas le nom qui est inscrit sur votre madame. Façade, monsieur.
Votre diatribe m'honore, madame.
Quand même un moment d'anthologie. Quand même. Le mec, tout seul, dans la grande tradition des traîtres de comédie balzacienne, prend tout seul le parti, explique tout seul qu'il va faire une alliance avec le RN.
Éric Ciotti, une volte-face, non. Une trahison.
Palais de l'Élysée, la perspective du RN au pouvoir ne semble pas nouer la gorge du grand chef. Avec sa nonchalance habituelle, Emmanuel Macron passe les jours suivants entre sauteries dans les jardins de l'Élysée, réunions autour des sondages et soirées festives avec ses proches collaborateurs. Oui, au sein de la petite cellule qui a concocté la dissolution, les mousquetaires, l'ambiance est au beau fixe. Le soir venu, il n'est pas rare de voir le chef de l'État les rejoindre pour échanger des vannes ou rejouer les scènes de films de Jean-Marie Poiret. Cravate desserrée, verre de whisky japonais à la main, on se traite de petits pédés en s'envoyant des grandes tapes dans le dos. Cependant, depuis quelques jours, ces petites sauteries du soir ont deux invités en moins, et pas des moindres, Bruno Roger Petit et Pierre Charon. Accusés d'avoir fanfaronné dans le tout Paris médiatique sur leur rôle dans la dissolution, l'ancien journaliste et l'ancien proche de Nicolas Sarkozy ont provoqué la colère jupitérienne. « Je vais les virer », a promis le président. Au sein du petit groupe, cette disgrâce agit comme un rebel. Au palais, seul un homme peut prendre la lumière. Pour certains observateurs, plus qu'un cabinet noir, c'est un véritable boys club qui s'est constitué autour de Macron. Un gang de courtisans, toujours prêts à fomenter un mauvais coup, persuadés d'avoir réalisé un hold-up parfait avec cette dissolution surprise. Même Bruno Le Maire, pourtant habitué à courber la Chine, s'en prend publiquement à cet entourage jugé toxique. Invité sur TV5, le 20 juin, il n'hésite pas à les qualifier du nom de cette bestiole qui recycle les déjections au fond de l'océan.
Vous savez, les parquets des ministères et des palais de la République sont pleins de cloportes. Il y a toujours eu des cloportes, partie de la vie politique française. Ils sont dans les parquets, dans les réunions des parquets. Il est très difficile de s'en débarrasser. Le mieux, c'est de ne pas les écouter et de rester à sa place, qu'on soit président de la République, premier ministre, ministre, et prendre ses décisions en conscience.
C'est ainsi que tourne la roue du pouvoir. Les courtisans d'hier deviennent les ennemis de demain. Loin des coups de théâtre élyséens, les Français, eux, s'interrogent. Entre une majorité perdue, une droite divisée, des gauches rabibochées pour l'occasion et une extrême droite toute puissante, les fractures du pays apparaissent au grand jour. Plus que l'Assemblée, c'est la France entière qui semble dissoute. En voulant clarifier, Emmanuel Macron a plongé le pays dans le désordre, mais qu'on peut considérer aussi comme un nouveau paradigme institutionnel, un régime d'Assemblée auquel nous ne sommes pas habitués.
Je voudrais revenir au sondage pour voir où nous en sommes à quelques jours de ce premier tour. L'institut qui travaille avec TF1 et l'IFOP, regardez, a mesuré la progression continue du Rassemblement national dans les intentions de vote. On parle du Rassemblement national et de son allié ciottiste. C'est le parti qui gagne le plus depuis que les sondages ont commencé. Et il y a une petite musique là qui arrive. Toute la semaine dernière, tous sur les plateaux, nous disions, la majorité absolue pour le Rassemblement national, faut pas exagérer. Et maintenant, la majorité absolue, elle est peut-être à portée de main.
Isolé dans son palais, le président observe la colère qui monte derrière les grilles. Quelle va être l'issue du scrutin? Son pari va-t-il être payant? Obsédé par sa place dans l'histoire, peut-être songe-t-il à cette phrase de Bertolt Brecht. Le peuple a perdu la confiance du gouvernement. Eh bien, le gouvernement a décidé de dissoudre le peuple et d'en désigner un autre.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la dissolution de juin 2024, acte 1, ça veut dire qu'il y aura un acte 2. L'acte 2, ce sera demain, les résultats des législatives et toutes les conséquences qui s'en suivent. Pauline de Saint-Rémy, bonjour, vous êtes notre invitée.
Bonjour.
Directrice adjointe de la rédaction de Politico. Voilà. Et aussi chroniqueuse ici sur France Inter. J'avais vous posé la question que je poserai demain à Jean Garry, notre autre invité. Pourquoi, selon vous, Emmanuel Macron a pris cette décision de dissoudre l'Assemblée nationale? Et puis on verra trois hypothèses, mais je vous laisse répondre d'ailleurs.
La première raison, je crois qu'en fait, elle est très simple. C'est celle qu'il expose justement le soir du 9 juin, comme vous l'avez très bien raconté, à l'Élysée, à ses principaux lieutenants qu'il réunit un peu à la va-vite juste avant de faire l'annonce. Il a la conviction qu'il est capable de créer une dynamique, de faire en sorte que les Français votent à l'opposé du vote qu'ils viennent d'exprimer dans les urnes européennes. Je crois que c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que quand il dit on peut créer la dynamique, il pense même qu'il peut gagner, il pense qu'il peut élargir sa majorité. Il va quand même assez vite, au bout de quelques jours de campagne, constater, il ne pourra pas faire autrement, que cette dynamique n'est pas déclenchée, notamment quand il va donner sa première conférence de presse, je crois 3 ou 4 jours de mémoire après l'annonce de la dissolution, il va bien voir qu'elle ne produit absolument pas l'effet escompté dans les sondages.
Pas besoin de faire Sciences Po pour comprendre qu'un mois après, les Français ne vont pas voter différemment qu'un mois avant.
C'est-à-dire que
c'est une base quand même. C'est ce qu'on fait avec, notamment quand on a inversé le calendrier électoral en mettant les législatives 5 semaines après la présidentielle, c'est justement dans cette logique-là.
Oui, justement. Et alors, lui pense que, d'une certaine façon, s'il provoque les Français, s'il les met dos au mur, c'est comme s'il disait aux Français, alors, vous pensez que vous voulez vraiment l'extrême droite au pouvoir? Eh bien, on va voir. Là, je vous donne l'opportunité de mettre Jordan Bardella à Matignon.
Voilà. Levez l'hypothèque.
Parce que si vous continuez à me poser la question de est-ce qu'il y a cette théorie un peu qui circulait dès le départ, est-ce que son intention c'est de faire rentrer le Rassemblement National à Matignon, ou en tout cas de faire arriver le Rassemblement National au pouvoir pour que Marine Le Pen ne lui succède pas en 2027? Je ne pense pas qu'il ait cette intention. Ce qu'il dit, c'est, à la fin de cette fameuse réunion que j'évoquais tout à l'heure, à tout prendre, on préfère Jordan Bardella à Matignon maintenant que Marine Le Pen en 2027. Mais c'est une formule. Il ne pense pas que ça arrivera, car il croit en sa capacité à créer une dynamique et même à remporter cette élection.
Parmi d'autres hypothèses, peut-être fantasmées, il y a l'idée selon laquelle cela permettrait de faire porter la responsabilité des problèmes économiques de la France à d'autres.
Et il y a aussi tout ce qu'on a découvert dans les semaines qui ont suivi les élections sur le trou béant dans les finances publiques, les surprises qu'on a eues. Ça, c'est aussi une hypothèse qui a circulé. Beaucoup de gens y croient. Je pourrais citer par exemple Bruno Le Maire, qui est convaincu aujourd'hui que la décision de dissoudre a servi à cacher ce qui se passait réellement, à cacher les comptes réels du pays. Rien ne permet de le prouver. Oui. Et d'une certaine façon, il y avait quand même, il faut le dire, une part de rationalité dans la décision d'Emmanuel Macron. Encore aujourd'hui, il dit de toute façon qu'il n'a pas de regrets, car de toute façon, s'il n'avait pas dissous à ce moment-là, il aurait dû dissoudre à l'automne budgétaire, puisque vous l'avez bien dit aussi, il y avait quand même une majorité relative, et donc ça s'annonçait difficile. Il y a quand même une chose, c'est qu'il aurait au moins, à ce moment-là, laissé le temps à ses propres troupes de préparer leur campagne. Là, ce qui a été le véritable choc, ça a été l'effet de surprise, y compris pour ses plus proches, et je pense notamment à Gabriel Attal, qui a été vite chargé de mener cette campagne, alors qu'il l'avait appris une heure plus tôt.
Reste la quatrième hypothèse, la blessure d'orgueil.
Je ne sais pas si j'emploierais ce terme-là, peut-être quelque chose qui est lié, mais qui est plus pragmatique en quelque sorte, c'est l'envie de faire oublier ces résultats des élections européennes. Parce que s'il y a une chose à laquelle il est parvenu, exactement, c'est la seule chose qui a marché. Le soir même, si on regarde les soirées sur les plateaux de télévision, on n'en a quasiment pas parlé, alors que c'était quand même une claque historique. Des chiffres d'ailleurs parfaitement annoncés par les sondages, il faudrait le souligner aussi, il avait eu le temps de s'y préparer. Jusqu'à 10 jours avant la date fatidique, ce 9 juin des élections européennes, c'est à peu près ce que racontent ses proches, il avait là aussi le sentiment qu'en entrant dans cette campagne des élections européennes, dans laquelle il est entré effectivement tardivement, il pourrait inverser les choses, faire mentir les sondages. Quelques jours auparavant, il a bien vu là aussi que ça n'était pas ce qui était en train de se produire. Et c'est là que cette idée qui était non seulement dans l'air du temps, mais que lui avait soufflé effectivement certains de ceux qui l'entourent, est devenue un peu plus concrète dans sa tête.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Pauline de Saint-Rémy, je rappelle que vous êtes directrice adjointe de la rédaction du journal Politico. Gérald Darmanin, il a milité pour la dissolution tout en étant certain qu'elle n'aurait jamais lieu, c'est ce qu'on dit, vous confirmez ?
Oui, il a poussé Emmanuel Macron à dissoudre au soir des élections européennes, parce que toute la question c'était de quand est-ce qu'on le faisait. C'était ce fameux calcul de prendre toutes les forces politiques de court. Le vendredi qui précède ces élections européennes et donc l'annonce de la dissolution, il lui envoie même un texto dans lequel il lui explique toutes les raisons pour lesquelles il faut le faire ce soir-là, puisque les sondages ont l'air de se confirmer et que la claque pour le camp macroniste semble se confirmer. Et il finit ce texto par « mais je sais que vous ne le ferez pas ». Et c'est ce qui explique aussi sur cette fameuse photo que vous avez évoquée au moment où Emmanuel Macron annonce sa décision de dissoudre à ses lieutenants. Gérald Darmanin a l'air lui-même assez marqué, il se tient le visage, alors qu'il le sait en fait depuis des jours. En tout cas, il ne le sait pas vraiment, mais il fait partie de ceux qui savent que c'est une hypothèse. Ça prouve que lui-même savait qu'il y avait une part d'irrationnel et de risque très important là-dedans. Et d'ailleurs, il va difficilement l'assumer, et encore aujourd'hui, il l'assume plus tellement, mais ça s'explique aussi par sa situation personnelle, tout simplement. Il est ministre de l'Intérieur à l'époque. Il commence à s'ennuyer un peu, il a beaucoup d'ambition et des fourmis dans les jambes. Il adore rien tant que d'être en campagne, il a envie de se relégitimer. Et lui, sa circonscription, contrairement à ce qu'il dira le soir même, en fait, il sait qu'elle est très gagnable. Il n'a qu'une envie, c'est de repartir en campagne. Donc il y a aussi un calcul très personnel là-dedans.
La principale victime parmi le personnel politique et les stars du monde politique de l'époque, c'est Gabriel Attal.
Oui, c'est certainement lui, en tout cas, pour qui le choc a été le plus rude. Donc il l'apprend à peine une heure avant par le secrétaire général de l'Élysée, qui dit à Emmanuel Macron, quand même, il faudrait prévenir Gabriel Attal. Ça fait 6 mois qu'il est Premier ministre, et il entrevoit dans l'instant le fait que c'est un petit peu sa carrière qui se dissout à ce moment-là. Alors, il a du ressort, et en quelques heures, il va se remettre et se rendre compte que son intérêt, c'est de mener cette campagne malgré tout. Il glissera quelques critiques au micro, et on comprendra très très vite qu'il est en désaccord avec Emmanuel Macron, mais qu'il fait ça pour la majorité, aussi pour fidéliser les députés qui lui en seront gré d'ailleurs pendant très longtemps. Mais c'est à l'évidence, quand on fait le bilan un an après, pour lui que ça a été le plus rude. Il faut dire, c'est en quelque sorte une ironie de l'histoire, que c'est pas une raison direct, Gabriel Attal, de la décision d'Emmanuel Macron, mais quand même, ça en fait partie. Il y avait une détestation entre eux qui était extrêmement forte, alors qu'ils n'étaient à Matignon que depuis 6 mois. Certains disent même que le soir, quand Emmanuel Macron en discutait autour d'un whisky avec certains de ses proches, c'était quasiment impossible de répéter les mots qu'il utilisait à propos de Gabriel Attal, tellement c'était violent. Et pourtant, c'est lui qui l'a nommé 6 mois plus tôt, vous allez me dire, mais il le regrette amèrement. Il n'a bizarrement pas du tout anticipé à quel point Gabriel Attal, qui est pourtant un grand communiste, quand prendrait la lumière. Il le vit extrêmement mal et il ne cesse de dire que c'était une erreur. Il le dit d'ailleurs, même le soir même, il dit changer de Premier ministre, j'ai déjà essayé. Il dit ça devant Gabriel Attal, ce qui est en très plus blessant. De la décision qu'il vient d'insulter. Lapsus de ma part, c'est très insultant évidemment pour Gabriel Attal, en plus du choc de la décision qu'il vient d'apprendre.
Dites-moi, chez Politico, vous aviez des infos, des rumeurs, ou vous avez été totalement surpris comme nous tous ?
Non, ça serait vous mentir qu'on avait des infos. Dans la journée, comme tout le monde, on a senti le truc. Pour ne rien vous cacher, moi je me disais, avec de tels résultats, parce qu'on voyait que les sondages allaient se confirmer, je serais Emmanuel Macron, j'aurais envie de prendre la parole. On savait qu'il était prévu que le Premier ministre s'exprime, on savait qu'il y avait ces tensions entre deux, mais on se disait, à un moment donné, le président va vouloir dire quelque chose. Mais même quand on a su qu'un pupitre était prêt, qu'il allait parler, que finalement c'était plus Gabriel Attal qui s'exprimait, on se disait, c'est pas possible. Même quand Bruno Roger Petit, que vous avez mentionné, qui est un des conspirateurs, nous a dit, à nous aussi très directement, un moment gaullien se prépare, etc. On s'est dit, il y a pensé peut-être, mais il ne le fera pas. Parce que
un peu comme Darmanin.
Quelque part, voilà, on était comme Gérald Darmanin. Et je pense qu'en gros, quand l'agence France-Presse a confirmé qu'il prendrait la parole, on s'est dit, bon, c'est clair, mais tant qu'il n'avait pas prononcé les mots, on n'y croyait pas. Et pour en avoir rediscuté avec un des 4 conspirateurs qui sont vraiment ceux qui ont le plus poussé Emmanuel Macron à le faire, certains me disaient plusieurs mois après, je savais, mais tant que je ne l'ai pas vu en train de le dire devant la caméra, je n'en étais pas certain.
Alors, concernant ces conspirateurs-là qui viennent de la publicité ou du journalisme, qu'est-ce que ça nous raconte de la pratique du pouvoir sous Emmanuel Macron ?
Je pense que... Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est, ça dit quelque chose de la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron, mais peut-être de là où il en était à ce moment-là, c'est-à-dire après 7 ans de pouvoir, après 2 ans après une campagne présidentielle qui n'en avait pas vraiment été une, celle de sa réélection. En fait, il n'avait pas vraiment de programme, il avait été élu un petit peu par défaut, puis finalement, il n'a pas pris de grandes décisions politiques dans la foulée. Il nomme Elisabeth Borne, qui est une pure macroniste. Il se passe pas grand-chose. Non. Beaucoup de ses proches sont partis. Les plus âgés qui l'entourent, les plus madrés d'habitude, depuis le début, des Richard Ferrand, par exemple, ne sont plus vraiment là, ne sont plus vraiment dans les parages. Et du coup, ceux qui l'écoutent, ce sont ces personnes-là qui s'amusent un peu avec la politique, qui ont envie de faire un coup, qui frémissent. D'ailleurs, chez Bruno Roger Petit, on le voit, il est la veille au soir, il commence à parler à certaines personnes à l'Élysée du fait qu'Emmanuel Macron va peut-être dissoudre, il le dit très secrètement, et il frétille. Et donc, pour moi, ils ont surtout contribué à une ambiance, mais on aurait tort d'oublier que c'est Emmanuel Macron et lui seul qui a pris cette décision. Oui. Et d'ailleurs, je crois qu'il ne leur a jamais dit vraiment « je vais le faire ». Et eux jubilaient de sentir que peut-être ils avaient cette influence-là sur lui.
Alors, c'est le fameux phénomène de l'isolement, hein, de celui, on dit celui parce que pour l'instant on n'a jamais été capable de mettre une femme à l'Élysée, donc de celui qui a le pouvoir, cet isolement qui va altérer le discernement.
Je pense en partie à cause de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que il n'y a plus vraiment autour de lui de personnes qui soient capables de lui faire entendre raison. Alors il y a certainement une dimension psychologique à ça, parce que quand on retrace tout ce qui s'est passé vraiment dans les heures qui ont précédé la dissolution, parce que dans la journée, avant d'appeler Édouard Philippe, François Bayrou, comme vous l'avez mentionné, ou de prévenir Gérard Larcher en une minute au téléphone, il appelle quand même quelques fidèles le matin. Philippe Grandjean notamment, dont il sait très bien, parce qu'ils sont intimes, qu'il sera très opposé. Et Philippe Grandjean, c'est un homme de gauche en plus, qui a vraiment porté Emmanuel Macron au pouvoir. Et il sait que Philippe Grandjean, qui est quelqu'un qu'il respecte intellectuellement, va y être très opposé. Philippe Grandjean lui fait porter un courrier, c'est un homme un peu à l'ancienne, il envoie pas un texto, il lui fait porter un courrier très solennellement dans la journée pour lui dire « ne fais pas ça ». Emmanuel Macron le rappelle, ça ne marche absolument pas. Et il lui dit « je connais la gauche va s'unir, tu fais erreur. Si la gauche a peur que le RN arrive au pouvoir, elle va s'unir ». Et bien même ça, il ne l'entend pas. Donc oui, il y a certainement quelque chose là de l'usure du pouvoir, de l'isolement progressif et aussi une dimension psychologique, c'est certain.
Toute dernière chose, est-ce qu'on sait ce qu'en pensait Brigitte Macron? Alors d'un point de vue institutionnel, elle a rien à penser. Hein. Enfin bon, dans la vie, on sait bien que ça se passe comme ça.
Alors je ne saurais pas très bien vous dire comment elle est intervenue très précisément dans les jours qui précèdent. Mmh. Ce que je peux vous dire, c'est d'abord qu'elle est très proche de Bruno Roger Petit, qu'on vient de mentionner, qui était l'un des plus importants, à mon avis, hein, parmi les quatre fameux conspirateurs, qu'elle l'a toujours protégé. Donc ça, c'est déjà un premier indice, elle n'y était pas opposée. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que 6 mois après, encore, elle s'étonnait qu'on dise que c'était une mauvaise idée. Ce qui prouve quand même qu'elle était d'accord avec son mari.
Et ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Pauline de Saint-Rémy. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la dissolution. Acte 1, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. Merci à Sophia Aktib qui était à la technique aujourd'hui.